c'est la reine du salon de l'auto qui se tient en ce moment. Peu de Belges roulent déjà en véhicule 100% électrique, mais bientôt, nous n'aurons plus le choix. En 2035, les voitures à essence ou diesel ne pourront plus être vendues en Europe. Toutes les voitures neuves seront électriques. C'est une véritable révolution pour notre mobilité avec encore beaucoup de défis à relever. Le prix de ces voitures reste trop élevé, leur autonomie trop faible et le nombre de bornes de recharge disponibles insuffisant. Le chantier semble immense, mais les autorités ne veulent plus faire marche arrière. La voiture électrique à tout prix, c'est une enquête signée Jean-Christophe Willems et Santos Sevier Garcia.
Parlement européen. Les députés prennent une décision qui va bouleverser radicalement notre manière de concevoir la mobilité. Dès le 1er janvier 2035, plus aucune voiture équipée d'un moteur à combustion, essence, diesel, gaz et même hybride ne pourra être vendue en Europe.
Je pense qu'on verra plus de changements dans les 5 ou 10 prochaines années que tout ce qu'on a connu en 25 ou 50 ans. Donc oui, c'est une révolution.
Une révolution, car en moins de 12 ans, il va falloir profondément repenser son rapport à l'automobile. Au cours du dernier siècle, la voiture s'est démocratisée et on en a vendu toujours plus, équipée de moteurs thermiques, c'est-à-dire qui brûlent du carburant. En Belgique, il y en a près de 6 millions, mais à peine 80 000 entièrement électriques. Difficile d'imaginer que dans quelques années, toutes les voitures neuves seront électriques.
Je pense pas qu'une voiture électrique, ça va être en dessous de 12, 13 000 euros. Donc c'est un peu ridicule.
Une électrique, pour faire quoi, 300 km? Je vais en Espagne en vacances, je fais comment?
Pour le moment, c'est pas encore au point. Et je crains que ce sera au point pour 2035.
Plus fort encore, dans certaines villes comme Bruxelles, les voitures thermiques seront interdites pour réduire pollution et gaz à effet de serre. On va vous expliquer pourquoi il s'agit bien d'une révolution. On vous emmènera chez des citoyens qui s'interrogent sur ce choix.
Je trouve ça étrange qu'on soit un projet aussi loin et qu'il reste encore autant de questions.
On ira interroger les constructeurs, les distributeurs d'électricité, les utilisateurs et les acteurs de l'électromobilité.
Un retour en arrière, je n'y crois pas. C'est un train, ou plutôt dans ce cas-ci, une voiture électrique qu'on ne peut plus arrêter.
2035, c'est déjà demain. La transition vers une mobilité électrique ne se fera pas sans mal. Mais l'heure des réflexions et des contestations est à présent terminée. La décision semble irrévocable. Quoi qu'il advienne, l'Europe passera à l'électrique. L'Europe veut réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Mais un secteur coince, celui des transports. En 30 ans, il n'a pas diminué ses rejets, au contraire, il les a augmentés. Et pas qu'un peu, 33,5% de plus entre 1990 et 2019. Car une voiture, même moderne, cela reste polluant. À l'heure actuelle, seules deux énergies permettent d'atteindre les objectifs européens. L'hydrogène tout d'abord, coûteux et complexe à produire, on le trouvera sûrement dans les gros véhicules. Pour les voitures, ce sera l'électricité. Savez-vous qu'au début de l'automobile, à la fin du 19e siècle, trois motorisations se côtoyaient ? Essence, vapeur et électrique déjà. Et figurez-vous que la première voiture à dépasser les 100 km/h en 1899, eh bien elle est électrique. Ce gros cigare sur roue s'appelle la jamais contente de l'ingénieur belge Camille Genazzi. Un bon siècle plus tard, la voiture électrique fait son grand retour, et cette fois pour de bon. Chez nous, on vend des voitures électriques depuis une douzaine d'années. Nous avons rassemblé quelques propriétaires convaincus et pas besoin de chercher longtemps les thèmes de discussion.
J'ai pas d'écran, j'ai rien, j'ai pas de tableau de bord. Enfin, j'ai un tableau de bord simple et moi je me suffis avec ce qui me reste comme kilomètre.
Avec la petite voiture, c'est Cosette. Pas vraiment passionnée à la base.
Je veux bien donner 20 000 euros pour une voiture, qu'elle soit thermique ou électrique.
Son choix est rationnel.
Bah alors autant prendre l'électrique. Et en plus, utiliser mes panneaux solaires.
Bruno, lui, cela fait 8 ans qu'il a franchi le pas.
C'est clair que les choses évoluent à tous les niveaux. Hein. Les mentalités évoluent, le réseau de chargement évolue aussi, les performances des voitures, l'autonomie des voitures évolue.
La voiture de société représente le gros des ventes des voitures électriques. Heidi en a bénéficié.
J'ai pas de borne à la maison, mais je la charge quand même sur une prise normale. Donc elle charge très lentement, je dois dire approximativement 100 km sur une nuit. Comme j'ai une autonomie de 450 km, ben en fait, ça me suffit largement.
Quant à Christophe, il a carrément convaincu toute sa famille de rouler en véhicule électrique.
Je voulais plus avoir aucun véhicule thermique, alors voilà, j'ai remplacé tous les véhicules thermiques de la famille par des véhicules électriques.
Pour quelle raison ?
À un moment donné, je me suis rendu compte à quel point le fossile était un problème qui nous pourrissait un peu notre quotidien, que ce soit en matière de changement climatique, mais aussi santé publique ou même géopolitique. Malheureusement, on le voit bien maintenant.
Là, on vous a présenté ceux pour qui la voiture électrique n'a déjà plus de secret. Mais il y a les autres, ceux qui doutent, ceux qui craignent cette transition, ceux qui, comme nous, doivent essayer avant de se décider. Alors, nous avons utilisé une voiture électrique pendant tout le tournage. Pour 4 grands gaillards et un matériel conséquent, il faut une grande voiture, une voiture qui ressemble à toutes les autres. Elle est juste silencieuse, puisqu'elle ne brûle pas de carburant. On s'est dit qu'on allait d'abord un peu la décortiquer. Et vous savez quoi ? On n'a pas vu grand-chose, à part une grande plaque métallique. Pas de pot d'échappement, pas de vue sur le moteur caché sous le coffre. C'est le même moteur que celui-ci, qui ressemble à celui de votre machine à lessiver, mais en plus gros tout de même. Plus de réservoir, mais une batterie dans le plancher, une grosse batterie qui pèse 500 kg. Notre voiture dépasse ainsi allègrement les 2 tonnes sur la balance. Et pour se faire la main, direction l'Ardenne. Nous avons rendez-vous avec Fabrice. En tant que formateur au chemin de fer, il se déplace beaucoup dans une région où les bornes de recharge sont aussi rares que les voitures électriques. Pour l'instant, pas question de remplacer sa voiture diesel.
Le prix d'achat est très conséquent quand même. On peut quand même compter certainement 15 à 20% plus cher pour le véhicule qui m'intéresse. Il y a aussi le fait que si vous roulez avec une remorque, l'autonomie va être diminuée, en hiver aussi. Et il n'y a pas de possibilité de borne de recharge chez mon employeur pour l'instant. Donc j'ai dit non, pour l'instant ça ne m'intéresse pas.
Le prix, c'est le principal problème de ce type de véhicule. À modèle équivalent, la voiture électrique reste 20% plus chère que la voiture thermique. Prenez ce petit modèle, il se vend entre 20 et 31 000 euros en essence, contre 36 à 40 000 euros en électrique.
Je ne vais pas mentir, on avait prévu qu'aux alentours de 2023-2024, on sera à parité entre une voiture thermique et une voiture électrique. On n'y est pas.
Celui qui l'affirme, c'est Hugues d'ailleurs. Il représente la fédération regroupant tous les acteurs de l'électromobilité. Fabricants de bornes, installateurs, constructeurs automobiles ou fournisseurs d'électricité. Selon lui, ce qui justifie le prix, c'est la crise actuelle.
La crise des composants et certaines matières premières qui coûtent cher font que la voiture électrique reste chère par rapport à une voiture thermique. Néanmoins, le total cost of ownership, c'est-à-dire le coût total pour rouler avec un véhicule, si on tient compte du fait que l'électricité coûte moins cher que le carburant et que la voiture est moins consommatrice pour faire 100 km en voiture électrique qu'en voiture thermique, doit permettre de rendre plus accessible le véhicule électrique au commun des mortels.
En résumé, la voiture est plus chère à l'achat, mais moins chère à l'utilisation. D'autant qu'il n'y a quasiment pas d'entretien et peu de taxes pour le moment. Selon les estimations, il faudra encore 3 à 6 ans avant que le prix des voitures électriques et thermiques soit équivalent en neuf. Car pour les occasions, on attendra, ce marché étant quasi inexistant aujourd'hui. Le prix, c'est aussi ce qui a freiné Jacqueline au moment où elle a dû changer de véhicule. Mais il n'y avait pas que cela, car elle habite en ville, dans un appartement. Sans borne de recharge dans son parking, ni en rue, Jacqueline n'a pas eu trop le choix.
Je me suis dit, je vais acheter une voiture thermique d'occasion, le temps d'attendre que le marché se stabilise. Et en plus, il y a plein de questions qui se posent. Comment la recharger, l'autonomie, toutes ces questions étaient, en plus du prix, un frein à l'achat d'une électrique.
90% des recharges ont lieu au travail ou au domicile. Mais quand, comme Jacqueline, on ne dispose pas de ces possibilités, cela devient compliqué. À Bruxelles, à peine 12% des habitants sont en mesure de charger un véhicule chez eux. car tirer un câble sur la chaussée, comme c'est le cas ici, c'est formellement interdit sous peine d'amende. La région bruxelloise promet 22 000 points de recharge d'ici 2035. Il y en a 2 000 actuellement accessibles au public. Pas assez de bornes pour toutes les voitures ? C'est une décision qu'on assume politiquement.
Ah, mais c'est pas du tout notre objectif de remplacer un véhicule thermique par un véhicule électrique.
Dans les grandes villes, le problème vient plus de la pollution due au nombre de voitures que du CO2.
Notre objectif, c'est de diminuer la congestion automobile, diminuer la circulation automobile à Bruxelles. Les objectifs du gouvernement régional sont clairs. Diminuer de 20% le trafic automobile à Bruxelles. Ceci dit, il en restera encore 80%. Pour les 80% qui restent, là, on électrifie. Comment est-ce qu'on fait pour réduire ? C'est plus de place pour les piétons, plus de place pour les cyclistes, de l'investissement massif dans les transports en commun, mais aussi un support à toute la mobilité partagée qui, elle aussi, s'électrifie.
Moins de voitures à Bruxelles, et surtout tout électrique, une décision radicale qui passe plutôt mal.
C'est des sales voleurs. C'est dégueulasse, on a payé une taxe de roulage, une taxe de mise en circulation.
Même si c'est une bonne idée, j'aurais pas le moyen d'acheter une voiture électrique.
Alors, on n'est pas vraiment équipé pour les voitures électriques. Hein.
C'est pas très démocratique, hein. Ils pourront nous laisser finir nos voitures.
Et si vous ne devez circuler qu'en Wallonie, sachez que la région ne prévoit que 12 000 points de recharge. En Flandre, c'est 3 fois plus, avec un plan actuel de 35 000 points de recharge. Au total, les plans belges en prévoient donc 69 000 dans le futur. Les Pays-Bas en ont déjà 120 000 maintenant.
On compte en moyenne qu'il faut une borne publique pour 10 voitures électriques. Et donc, comme le nombre de voitures électriques augmente de façon assez rapide, il est bon de voir que les autorités publiques investissent maintenant dans une infrastructure de recharge.
Alors, quels sont les objectifs en termes de nombre de bornes de recharge ?
Si on fait le compte, 1 800 000 véhicules électriques qui sont attendus à l'horizon 2030 et qu'il faut une borne pour 10 voitures électriques, ça voudrait dire qu'il faut 180 000 points de charge en Belgique à l'horizon 2030.
180 000 points de charge en voirie. Aucun plan ne prévoit un tel déploiement. Il faudra donc toujours charger au travail ou à domicile pour autant que ce soit possible. D'autant qu'avec ce type de borne, la vitesse de recharge reste limitée. Alors, le long des grands axes, on déploie des bornes rapides. Le précurseur, c'est l'américain Tesla. L'entreprise d'Elon Musk a implanté 35 000 superchargeurs dans le monde. On les trouve souvent sur des parkings d'hôtels, qui vous suggèrent même quelques activités pour passer le temps. Depuis l'été dernier, beaucoup de ces superchargeurs sont accessibles à d'autres marques automobiles en payant un peu plus. Alors la concurrence s'organise. À coût de dizaines de millions d'euros, les stations-service s'équipent en chargeurs rapides, à côté du diesel, de l'essence et du gaz. Voici l'électricité.
On peut charger une voiture en combien de temps pour le moment ?
C'est une bonne question. À 175 kW, on peut charger une voiture de 0 à 100% de batterie dans une petite demi-heure. Ces bornes-là sont conçues pour que, dans le futur, on puisse les augmenter au niveau de puissance jusqu'à 350 kW. Du coup, ils sont future-proof pour, dans le futur, avoir encore une puissance plus élevée pour pouvoir charger dans un quart d'heure, 20 minutes.
La vitesse de charge ne devrait plus être un problème dans les prochaines années. Ce ne sera pas le cas du prix. Il est libre et peut être comparé à un abonnement pour téléphonie mobile. Il dépend du fournisseur, du type d'abonnement, du temps passé sur place ou même du type de véhicule. Et cet abonnement tient sur une carte ou un badge à scanner sur les bornes. Pour connaître les tarifs, mieux vaut disposer d'applications sur son portable.
Le coût n'est pas mentionné sur la borne même. Elle est toujours visible sur des applications mobiles, sur l'Internet et sur le site web. Parce que le prix de l'électricité, dans une période comme maintenant, évolue énormément. Un prix sur une borne rapide varie entre 65 et 1 euro le kilowattheure.
À 1 euro du kilowattheure, rouler 100 km vous coûtera 20 euros, presque le double de l'essence. Les charges rapides bien chères, c'est du dépannage lors des longs trajets. D'ailleurs, on en a fait l'expérience. Nous nous sommes rendus à Paris avec notre voiture électrique. entre la RTBF et notre destination, il y a 323 km. Notre voiture annonce 400 km d'autonomie. Mais une voiture électrique, ça n'aime ni le froid ni l'autoroute, où l'autonomie fond comme neige au soleil. Nous devrons donc recharger. Petit arrêt près de Compiègne, où se trouvent des bornes rapides. Enfin, rapide, on se comprend. Il faut tout de même 3 quarts d'heure pour récupérer 250 km. Ça laisse le temps de faire connaissance avec d'autres électromobilistes. Dans notre cas, il s'agit d'un compatriote qui retourne en Belgique après avoir acheté sa voiture en France.
J'ai 800 km pour remonter depuis Périgueux.
Vous faites ça en combien d'étapes ?
C'est mon 3e arrêt et je devrais encore faire un avant d'être à Bruxelles.
C'est un petit peu contraignant.
C'est un peu contraignant. Il faut s'habituer, il faut avoir un livre. Et il faut connaître un peu plus que ce que je connais pour le moment, les bonnes bornes de recharge ou à faire des recharges rapides, etc. Parce que sinon, c'est vrai qu'on cherche, on rame, on tourne un tout petit peu pour trouver des lieux de chargement voilà, vraiment adéquats.
Sur un Bruxelles-Paris, prévoyez une heure supplémentaire en voiture électrique pour l'instant. Les longs voyages restent assez contraignants et doivent être préparés. Mais nous ne sommes pas allés à Paris juste pour tester les longs trajets. C'est là que se déroule le mondial de l'automobile. Et surprise, on n'y trouve que quelques constructeurs français, un Vietnamien et beaucoup, beaucoup de Chinois. On a eu beau chercher des diesels, on n'en a pas trouvé. La quasi-totalité des véhicules exposés sont des hybrides ou des électriques. Preuve que le changement est en marche. Ce qui ne plaît pas nécessairement à tout le monde. C'est le cas du géant Stellantis, qui regroupe 15 marques dont Peugeot, Citroën, Fiat, Opel ou Jeep par exemple. Côté pile, l'industrie automobile promet qu'elle sera prête en 2035. C'est en tout cas ce qu'affirme le numéro 2 de Stellantis.
Voilà, c'est un choix, c'est une décision par l'Union européenne qui a été élue démocratiquement par les citoyens européens. Donc je pense qu'il n'y a pas d'autre choix que la voiture électrique. Certes, il y a d'autres technologies qui vont arriver, mais dans un premier moment, c'est la voiture électrique. Donc je pense que toutes les entreprises et les consommateurs, évidemment aussi, vont aller vers cet objectif zéro CO2.
Mais côté face, le discours n'est pas vraiment le même. Après l'interview du numéro 2 du groupe, nous avons pu rencontrer le grand patron, Carlos Tavares, mais sans caméra. Voici ce qu'il dit de l'électrification forcée.
Cette décision dogmatique de l'interdiction de vente de voitures thermiques en 2035 a des conséquences qui ne sont pas gérables. Des conséquences non sur l'emploi, mais sur l'inflation. Il faut une couche de pragmatisme et se dire que si la classe moyenne ne peut acheter de voitures électriques à cause du prix, les conséquences seront graves.
Pensez-vous que l'Europe pourra faire marche arrière ?
Cela dépend du nombre de personnes qu'il y aura dans les rues. L'Union européenne a tout fait pour créer des conditions favorables aux marques chinoises.
Des marques chinoises qui occupent plus de superficie au salon de Paris que les marques françaises. Cela fait comme un choc. Déjà productrice de la moitié des batteries dans le monde, la Chine est devenue constructeur d'automobiles électriques. En achetant de célèbres blasons comme MG, Lotus ou Volvo, ou avec ses propres marques encore peu connues. La Chine débarque en Europe avec des modèles qui n'ont plus rien à envier à leurs concurrents. Tout cela, bien entendu, à moindre prix. Et pour nous parler des modèles chinois, c'est un Européen qui communique.
De manière générale, on se considère comme une marque Smart Premium. Inévitablement, au début, tant que notre image de marque n'est pas vraiment développée, on commence juste, on ne pourra pas vendre nos produits au même prix que certains de nos concurrents bien implantés. C'est très clair. Notre but est de proposer un ensemble de produits convaincants, à un prix vraiment raisonnable, une voiture qui respecte tout, une voiture qui offre un niveau de confort, de sécurité et de performance qu'on ne rencontre pas encore dans cette catégorie de prix.
Le temps du monopole européen semble révolu. Le salon de Paris en a apporté la preuve. Après la visite du salon, on a voulu recharger notre voiture. Mais si plusieurs points de charge en voirie sont disponibles et fonctionnels, ce n'est pas gagné pour autant. Notre abonnement en théorie compatible ne l'est pas vraiment en réalité. Alors on essaye la carte de crédit.
Paiement refusé. Ok.
On télécharge même l'application spécifique. Rien à faire, notre voiture se connecte, mais ne charge pas le moindre électron. Pire, elle nous donne quelques sueurs froides.
Alors on regarde sur le tableau de bord si ça charge. À mon avis, ça ne fonctionne pas. Bon, ça ne va pas. Je sais pas la débrancher. On est bloqué ici, les gars. Une erreur est survenue, donc le problème, c'est que non seulement je n'arrive pas à charger, mais je n'arrive pas à retirer la prise. Je sais toujours pas le faire, hein.
On chargera donc ailleurs.
Ah.
Ouf, car il nous faut rentrer à Bruxelles. On y est attendu à deux pas des institutions européennes. C'est là que se trouvent les bureaux de l'ACEA, l'Association des constructeurs européens. Et ce n'est pas un hasard. Dans l'Union, 13 millions de personnes travaillent pour le secteur automobile. Alors ici non plus, on ne voit pas l'arrivée des constructeurs chinois d'un bon œil. Car l'Europe n'arrive pas encore à offrir une voiture électrique et performante à bon prix. De quoi inquiéter Sigrid De Vries, la directrice.
Pour l'Europe, la vraie question est comment être un endroit compétitif pour assembler des véhicules. Parce qu'on a des désavantages. Les prix de l'énergie sont plus élevés ici, on a moins d'accès aux matières premières nécessaires pour les batteries, il y a un désavantage compétitif et la manière dont on peut faire